Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus.
Leçon 9, du 24 février au 1er mars. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sabbat, après-midi. Étude de la semaine basée sur les textes suivants. Psaume 23, Psaume 22, Psaume 89 des versets 28 à 33, Colossiens 1 verset 16, Psaume 2, Hébreux 7 des versets 20 à 28. Versets à mémoriser.
La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux.
Psaume 118, les versets 22 et 23. Les psaumes attestent de la personne et du ministère du Christ. Les aspects de son œuvre dans le plan du salut sont presque tous visibles dans les psaumes. La vie et l'œuvre de Christ sont préfigurées et prédites de différentes manières dans les psaumes, souvent avec une précision remarquable. Parmi les sujets révélés dans les psaumes, il y a la divinité de Christ, sa qualité de fils, son obéissance, son zèle pour le temple de Dieu, son identité de bon berger, sa trahison, sa souffrance, le fait que ses os n'aient pas été brisés, sa mort, sa résurrection, son ascension, sa prêtrise et sa royauté. Tout est là, prédit des siècles avant son incarnation. Il n'est donc pas étonnant, par exemple, que quand Jésus parlait de son ministère, il ait renvoyé aux psaumes dans sa conversation avec les disciples sur la route d'Emmaüs. Luc 24, verset 44. Il voulait qu'il trouve dans les psaumes des preuves de qui il était. Certains psaumes ont un accomplissement typologique en Christ. Psaume 24, 45, 72 et 101. Le roi et le juge. 88 et 102. Prière du serviteur souffrant. Dans tous les psaumes, dans les lamentations des psalmistes, leurs actions de grâce, leurs louanges et leurs appels à la justice et à la délivrance, on peut entendre les échos de la prière de Christ pour le salut du monde. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat de mars. Dimanche. Le berger divin qui se sacrifie. Si quelqu'un peut vous faire la lecture des psaumes 23, psaume 28 verset 9, psaume 80 verset 2, psaume 78 les versets 52 et 53, psaume 79 verset 13 et psaume 100 verset 3. Comment la relation entre le Seigneur et son peuple est-elle décrite ici? Les images du Seigneur comme berger et du peuple de Dieu comme les brebis de son pâturage, montre que Dieu conduit son peuple et prend soin de lui, et que ce dernier dépend de lui pour combler ses besoins. L'image traduit la notion de proximité entre Dieu et son peuple, car les bergers vivaient avec leurs troupeaux et s'occupaient de chaque mouton individuellement. Ces images pastorales mettent également en évidence que Dieu est propriétaire de son troupeau, du fait de deux liens forts, la création, psaume 95, versets 6 et 7, psaume 100, verset 3, et l'Alliance, psaume 28, verset 9, Hébreux 13, verset 20. L'image du berger divin conduisant Joseph comme un troupeau, psaume 80, verset 2, renvoie peut-être à la bénédiction que Jacob donna à Joseph et qui dépeint Dieu comme le berger d'Israël. Cette image rappelle donc cette grande promesse bénie, Genèse 49, verset 24. Les rois étaient considérés comme des bergers de leur peuple, 2 Samuel 5, verset 2. Pourtant, seul Dieu mérite véritablement ce titre, parce que la plupart des rois humains n'étaient pas à la hauteur d'un tel appel. Seul Jésus l'a été, et c'est pourquoi il est appelé le bon berger. Que quelqu'un vous lise Jean 10, des versets 11 à 15. Que dit Jésus de lui-même en tant que bon berger ? Le lien intime entre le berger divin et son troupeau se traduit par le fait que le troupeau reconnaît la voix du berger. Jean 10, les versets 4 et 27. Jusqu'à aujourd'hui, les bergers au Moyen-Orient savent rassembler leurs troupeaux qui se sont mélangés, simplement en appelant leurs brebis, qui reconnaissent et suivent la voix de leur berger. Il arrive que le troupeau de Dieu souffre différentes afflictions, que les autres interprètent comme le signe que Dieu est mécontent et qu'il l'a abandonné. Pourtant, le bon berger n'abandonne jamais ses brebis égarées, mais il part à leur recherche pour les sauver. Voilà une image frappante de la relation entre Dieu et son peuple. Il est prêt à mourir pour ses brebis. Jean 10, versets 11 et 15. Et devient, paradoxalement, un agneau sacrificiel pour eux. Jean 1, verset 29. Jésus a également confirmé qu'il appellerait des brebis d'autres troupeaux pour les réunir en un seul troupeau. Jean 10, verset 16. Au quotidien et sur le plan pratique, comment profiter des promesses qui nous sont faites si nous avons Jésus comme notre bon berger? Lundi, le Messie souffrant. Si quelqu'un peut vous faire la lecture des psaumes 22, psaumes 118, verset 22, comment le Messie fut-il traité par ceux qu'il était venu sauver? De nombreux psaumes expriment les sentiments insoutenables d'abandon extrême du Messie souffrant. Par exemple, psaume 42, psaume 88 et psaume 102. Le psaume 22 est une prophétie messianique directe, car de nombreux détails ne peuvent historiquement être associés au roi David, alors qu'ils correspondent parfaitement aux circonstances de la mort de Christ. Jésus a d'ailleurs prié les mots de psaume 22, verset 2 sur la croix, Matthieu 27, verset 46. En portant les péchés du monde entier, Christ est séparé de son Père. Le déchirement qu'il vit alors ne peut se comprendre qu'à l'aune de leur intimité, c'est-à-dire leur unité parfaite. Jean 1, verset 1 et 2, Jean 10, verset 30. Pourtant, même cette souffrance inconcevable n'a pu briser l'unité entre le Père et le Fils. En s'abandonnant totalement, Christ se confie sans réserve au Père, malgré la violence de son désespoir.
Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus.
Ellen White, Jésus-Christ, page 757. Les images menaçantes de taureaux puissants, de lions rugissants et de chiens soulignent la cruauté et l'animosité que Christ, comparé à un ver inoffensif et sans défense, a enduré pendant les dernières heures de sa vie. Avec une précision étonnante, le psaume 22 traduit les remarques malveillantes de la foule qui se moqua de Jésus. Psaume 22, les versets 2 et 9. Matthieu 27, verset 43. Et des soldats qui se sont partagés les vêtements de Jésus. Psaume 22, verset 19. Matthieu 27, verset 35. Ils étaient loin de se douter que, entre guillemets, le ver qu'ils cherchaient à écraser deviendrait la pierre d'angle du temple et assurerait sa fondation. Psaume 118, verset 22. Pourtant, après sa résurrection d'entre les morts, le Messie rejeté devint la source du salut pour le peuple de Dieu. Matthieu 21, verset 42, acte 4, des versets 10 à 12. L'humanité a rejeté Christ, mais Dieu a glorifié son Fils en faisant de lui la pierre principale de l'angle du temple spirituel de Dieu. Éphésiens 2, versets 20 à 22, 1 Pierre 2, des versets 4 à 8. Pour ceux qui rejettent cette pierre, qui est le moyen de salut prévu par Dieu, elle deviendra l'instrument de leur jugement. Ésaïe 8, verset 14, Matthieu 21, verset 44. Sur la croix, Jésus a payé de sa vie le prix de chaque péché jamais commis. Il a aussi souffert pour vous. Quel impact cette vérité a-t-elle sur votre manière de vivre? Pourquoi le péché devrait-il être abominable à nos yeux? Mardi, toujours fidèle à son alliance. Quelqu'un peut vous aider à lire les psaumes 89, des versets 28 à 33, 39 à 47 et le psaume 132, des versets 10 à 12. Qu'est-ce que l'alliance davidique? Qu'est-ce qui semblait la mettre en péril? L'alliance davidique comporte une promesse. Dieu soutiendra éternellement la lignée de David et la prospérité du peuple de Dieu. 1 Samuel 7, des versets 5 à 16, psaume 89, des versets 2 à 5 et versets 20 à 38, et psaume 132, des versets 12 à 18. La permanence de l'alliance fut établie sur le serment solennel de Dieu et la fidélité du roi envers Dieu. Pourtant, même les bons rois comme David ne furent pas toujours fidèles à Dieu. Dans le psaume 89, le psalmiste se lamente car il semble que les glorieuses promesses de l'alliance davidique aient été perdues. Dieu a-t-il définitivement abandonné Israël? La réponse est évidente, non. La colère de Dieu est certes une expression du jugement divin. Psaume 38, verset 2, psaume 74, verset 1. Mais elle ne dure pas, car l'amour éternel de Dieu pardonne les péchés de ceux qui se repentent. Le peuple ressent les amères conséquences de sa désobéissance et prend conscience de la gravité de ses péchés. Psaume 89, les versets 39 à 47. Pourtant, il demande « Jusqu'à quand ?» en sachant que la colère de Dieu est passagère. Psaume 89, verset 47. Ils ont une nouvelle assurance dans la fidélité de Dieu à se souvenir de sa grâce. Psaume 89, les versets 48 et 51. Et leur espérance est renouvelée. En bref, bien que la composante humaine de l'alliance ait failli, le peuple pouvait compter sur la promesse des objectifs immuables de Dieu à travers le Messie, qui incarne toute la justice et le salut d'Israël et du monde entier. Autrement dit, à la fin, Dieu l'emportera et son royaume éternel sera établi à jamais. Mais cela, uniquement grâce à Jésus et non grâce au peuple de Dieu. Jésus-Christ est le fils de David et le Messie. Matthieu 1, verset 1, Hébreux 1, verset 8. Il est appelé le premier-né de toute création. Colossiens 1, verset 15. Ce qui fait allusion à Psaume 89, verset 28, qui appelle David un type de Christ, le premier-né de Dieu. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Bien sûr, le titre premier-né ne traduit pas le statut biologique de David, car il était le huitième fils de ses parents. 1 Samuel 16, les versets 10 et 11. C'est la même chose avec Jésus. Ce titre traduit son honneur et son autorité à part. Colossiens 1, verset 16 et les versets 20 à 22. Dieu a fait de Jésus le roi suprême sur le monde entier quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Acte 2, versets 30 et 31. Lisez Colossiens 1, les versets 16 et de 20 à 22. Que nous enseignent ces versets sur qui était Jésus et sur ce qu'il a fait pour nous? Quelle promesse nous est faite personnellement? Mercredi, un roi éternel d'une puissance inégalée. Quelqu'un peut-il vous faire la lecture du psaume 2, du psaume 110, des versets 1 à 3, du psaume 89, versets 5 et 14 à 28, du psaume 110, les versets 1, 2, 5 et 6? Que nous enseignent ces textes sur Christ comme roi? La description de Dieu comme Père du Messie renvoie au couronnement du roi quand il fut adopté dans l'alliance de Dieu. Psaume 2, verset 7, psaume 89, les versets 27 à 29. Psaume 2, verset 7 anticipe la résurrection et l'exaltation de Christ comme l'aube d'une nouvelle alliance éternelle et du sacerdoce royal de Christ. Acte 13, des versets 33 à 39. Hébreux 1, verset 5, Hébreux 5, verset 5. Le Messie est assis à la droite de Dieu comme quelqu'un recevant des honneurs et une autorité sans précédent. Psaume 110, verset 1, Acte 7, les versets 55 et 56. De plus, l'interaction entre le Seigneur et l'oint, Messie, indique même une intention d'identifier ce Messie davidique au Seigneur lui-même. Si celui qui est assis à sa droite est le Seigneur, alors le Seigneur est le Messie, puisque ce dernier est également à sa droite. Psaume 110, les versets 1 et 5. Référence faite par Jacques Doucan, On the Way to Emmaüs, Clarksville, M.D. Lederer Books, 2012, pages 26 et 27. À la fin, Christ aura la victoire totale sur ses ennemis. Faire des ennemis un marchepied est une image qui reflète la coutume des rois du Proche-Orient ancien. Ils posaient leurs pieds sur les nuques de leurs ennemis vaincus pour manifester leur domination totale. Sauf qu'ici, le sceptre de Christ n'est pas un objet de terreur. Psaume 2, verset 9. Psaume 110, verset 2. À l'origine, le sceptre, la verge, dans la traduction Second 2019, était tenu par les chefs tribaux comme symbole de leur tribu. Nombre 17, des versets 2 à 10. Le sceptre de Christ vient de Sion car il représente le peuple de Sion. Son sceptre est un symbole de jugement divin qui met un terme au règne du mal et décrit le règne sans égal de Christ. Apocalypse 2, verset 27, Apocalypse 12, verset 5. Même les rois impies ont une occasion de se repentir et de se soumettre au Messie. Psaume 2, versets 10 à 12. On trouve dans une scène de Daniel 7 une description saisissante de la victoire ultime de Christ. Elle montre qu'après que le jugement est rendu en faveur des saints du Très-Haut, Daniel 7, verset 22, son royaume est établi et que son royaume est un royaume éternel. Daniel 7, verset 27, version Colombe. Grâce à la croix, la promesse du royaume est certaine. Une bénédiction est promise à tous ceux qui font confiance au roi, et le peuple se réjouit dans le règne souverain et juste du Messie. Psaume 2, verset 12. Psaume 89, des versets 16 à 18. Comme c'est bon de savoir qu'à la fin, le bien triomphera sur le mal, justice sera faite, et la douleur et la souffrance seront à jamais vaincues. Pourquoi pouvons-nous être réconfortés par cette vérité, dès à présent, même si le mal semble pourtant prospérer à vue humaine? Je dis, un sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Si quelqu'un peut vous faire la courte lecture du psaume 110, des versets 4 à 7. En quoi la prêtrise de Christ est-elle unique? Quel grand espoir peut-on trouver dans la prêtrise céleste de Christ? Dieu donne au Messie une royauté éternelle, psaume 110, des versets 1 à 3, et une prêtrise de rang supérieur dans l'ordre de Melchisédek, psaume 110, des versets 4 à 7. Le Seigneur scelle sa parole d'une promesse solennelle, Hébreux 6, verset 18, en faisant le serment de nous donner un prêtre parfait. C'est un signe de sa grâce. Les péchés et les rébellions ouvertes constantes du peuple pousseraient Dieu à abandonner son peuple, mais le serment qu'il a fait est définitif, et sa grâce est garantie dans la révocation du jugement pour les pécheurs repentants. Exode 32, verset 14, psaume 106, verset 45. Le serment divin introduit un nouvel élément dans l'alliance davidique, car il déclare que le roi Messie est également un prêtre. Psaume 110, verset 4. Les rois d'Israël ne pouvaient jamais exercer la fonction de prêtre lévitique. Nombre 8, verset 19. 2 Chroniques 26, des versets 16 à 21. Quand les Écritures mentionnent des rois ou des personnes qui offrent des sacrifices, cela veut dire en réalité qu'ils apportaient leurs sacrifices aux prêtres et que ces derniers les offraient. Le psaume 110 met le roi Messie à part de tous les autres rois et prêtres d'Israël. La prêtrise éternelle de Christ provient de Melchisédek, qui était à la fois roi de Salem, Jérusalem, et prêtre du Très-Haut. Genèse 14, des versets 18 à 20. L'Ancien Testament ne parle jamais du roi David ou d'aucun autre roi d'Israël comme possédant la prêtrise de l'ordre de Melchisédek, sauf dans le psaume 110. Clairement, le psaume parle d'un roi prêtre à part dans l'histoire d'Israël. Que l'on vous lise Hébreux 7, des versets 20 à 28. Quelles sont les implications de la prêtrise supérieure de Christ? Étant à la fois un roi divin et un prêtre éternel, Christ a une supériorité sans égale sur les prêtres et les rois humains. L'espoir est donc permis. Christ incarne une alliance supérieure fondée sur les serments de Dieu et non sur des promesses humaines. Il sert dans le sanctuaire céleste. Sa prêtrise n'est pas affectée par le péché ou la mort, comme celle des prêtres humains, et il peut donc intercéder pour son peuple et le sauver pour toujours. L'œuvre de réconciliation de Christ, prêtre parfait et compatissant, donne à son peuple l'assurance durable qu'il peut demeurer en la présence même de Dieu. Hébreux 6, les versets 19 et 20. La prêtrise royale de Christ abolira le règne du mal, non seulement dans le cœur des gens, mais aussi dans le monde. Christ tiendra sa promesse du psaume 2. Toute nation et tout chef seront soumis au jugement royal du Christ Jésus. Psaume 2, des versets 6 à 9. Psaume 110, les versets 1, 2, 5 et 6. La merveilleuse prêtrise royale de Jésus réclame notre obéissance et notre confiance. Vendredi, pour aller plus loin. Quelqu'un peut vous faire la lecture d'un texte d'Ellen White, « Dieu avec nous », pages 9 à 17 dans Jésus-Christ. Les psaumes, qui sont à la fois des prières de Christ et sur Christ, nous donnent une révélation unique de sa personne et de son ministère de rédemption, lui qui est Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Jésus est Dieu avec nous dans les prières qui expriment le sentiment d'abandon et la souffrance. Il est Dieu avec nous dans les appels à la justice et à la délivrance. Jésus est Dieu avec nous car il ne nous abandonne pas à notre situation désespérée, mais il nous montre le chemin de la foi victorieuse. Il est devenu pour nous le prêtre et roi éternel afin de nous sauver de la ruine éternelle du péché. En Christ, le parfait roi davidique, toutes les promesses solennelles de Dieu en matière de salut trouvent leur accomplissement. 2 Corinthiens 1, verset 20. Ellen White décrit avec beaucoup de pertinence l'unité de Christ avec l'humanité.
Par son humanité, le Christ est venu en contact avec l'humanité. Par sa divinité, il saisit le trône de Dieu. En tant que fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. En tant que fils de Dieu, il nous confère le pouvoir d'obéir. C'est le Christ qui, du milieu du buisson ardent du mont Horeb, disait « Je suis celui qui dit « Je suis ». Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui est, l'Éternel, m'envoie vers vous. » Tel était le gage de la délivrance d'Israël. Ainsi, quand il vint en se rendant semblable aux hommes, il s'est déclaré « Celui qui est ». L'enfant de Bethléem, le doux et humble sauveur, était Dieu manifesté en chair. Et il nous dit « Je suis le bon berger, je suis le pain vivant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le garant de toutes les promesses. Je suis, ne craignez rien. »
Ellen White, Jésus-Christ, page 15. À méditer. Comment Dieu a-t-il démontré sa fidélité indéfectible envers son alliance malgré l'infidélité du peuple? Comment cette idée peut-elle réconforter les enfants de Dieu qui vivent le même genre de situation aujourd'hui? En quoi la prêtrise unique et supérieure de Christ, selon l'ordre de Melchisédek, renforce-t-elle la certitude des croyants sur leur salut? Les évangiles démontrent que de nombreuses promesses messianiques contenues dans les psaumes se sont réalisées en Jésus-Christ. En quoi ce fait démontre-t-il la véracité de la parole de Dieu? Pourquoi faut-il résister aux sentiments qui tendent à affaiblir notre confiance en la parole de Dieu? Jésus a dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, verset 18. Quelle grande consolation peut-on tirer de ces paroles? Comment mettre en pratique cette promesse dans notre expérience personnelle?
D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site, radioadventistebethanie.com, et aussi sur toutes les plateformes de podcasts.